On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Au Cégep, il y a un cours obligatoire qui s'intitule « Éthique et politique ». Mais moi, aujourd'hui, avec mes deux invités, j'aimerais parler d'éclipse et politique parce que ça s'en vient, là, c'est lundi. C'est Mathieu Robert Sauvé, journaliste au Journal de Montréal, journaliste scientifique. Bonjour Mathieu Robert.
Bonjour.
Et Joël Leblanc, qui est aussi journaliste scientifique, qui est fondateur de Zapiens et qui est co-auteur avec Julie Bolduc-Duval de « Éclipse, quand le soleil fait son cirque ». Et j'attrape le mot « cirque » parce que on a eu l'impression que c'était ça, le cirque, depuis quelques semaines. Le ministre et le gouvernement, l'État aussi, qui envoie toutes sortes de directives là, qui semblaient vouloir faire peur au monde. Il y a eu la lettre de Pierre Chastenet, l'astronome, qui a dit que c'était vraiment une prudence excessive de la part des autorités. J'aimerais ça vous entendre parler de ça. Je commence par Joël. Qu'est-ce que vous avez pensé du cirque autour de l'éclipse jusqu'à maintenant, mais avant qu'elle se produise?
Oui, bonjour Antoine. C'est bonjour. Le cirque, le mot est bien choisi, je trouve. C'est pourtant un événement, oui, rare, oui, extraordinaire, oui, merveilleux, mais somme toute assez simple. En termes astronomiques, mais aussi simple à gérer. Ça devrait pas être la cacophonie, il y a le chaos comme ça l'a été ces dernières semaines. C'est quelque... Il suffisait... vous avez nommé Pierre Chastenet tout à l'heure. Je fais partie avec lui d'un regroupement là, de passionnés qui travaillent depuis plus de 2 ans à tenter de préparer au moins le milieu scolaire à cette éclipse et aussi bien sûr la société. Comme vous avez pu le voir, ça a été un échec de notre côté. On considère pas qu'on a bien réussi à préparer parce que ce n'est qu'à à 2-3 semaines d'avis que tout le monde s'est réveillé et que c'est devenu le 2-3 mois d'avis, disons. Bref, oui, c'est un événement somme toute simple et même s'il n'arrive pas souvent, on devrait pas être aussi démunis chez nos politiciens et chez nos décideurs et dans la sécurité publique qu'on l'est en ce moment. C'est quelque chose de tout simple. Les directives de sécurité sont ultra simples et faciles à appliquer. Et puis, on a manqué notre coup.
Mathieu Robert, là-dessus?
Oui, ben vous savez, les éclipses, c'est assez facile à prévoir.
Mais oui!
On sait depuis au moins 30-40 ans qu'elles vont pas, celle-ci, le 8 avril, va passer exactement au-dessus des cantons de l'Est, une partie du Québec, à quelle heure. Donc, c'est très, très prévisible. Donc, je pense que si le ministère de l'Éducation, le réseau scolaire avait un petit peu lu là-dessus, ça n'aurait pas été difficile de placer quelque chose dans le calendrier scolaire dès l'année dernière. Moi, dans la revue de l'année dernière, puis comme journaliste scientifique, souvent on a à faire des petites prévisions, qu'est-ce qui nous attend cette année. Moi, je me souviens en décembre, ben, le gros événement en 2024 sera l'éclipse totale. Ben oui. C'est vraiment quelque chose qu'on aurait dû voir venir et qu'on aurait pu gérer de façon un peu plus intelligente.
On entend souvent, vous me dites, si c'est vrai que la culture scientifique s'effondre ces dernières années. Est-ce que la confusion, là, cette espèce de cirque dont on a parlé autour de l'éclipse, est-ce que c'est pas une illustration de cet effondrement-là, Joël?
J'aurais envie de répondre oui, c'est bien formulé, mais je nuancerais, je dirais la culture scientifique s'effondre chez certaines personnes. Je crois que c'est une partie de notre société qui... Ça a probablement toujours été le cas, en fait. Probablement qu'il y a toujours eu une partie de la société qui avait moins de culture scientifique que d'autres, mais là, ils ont voix au chapitre avec les réseaux sociaux, tout le monde peut dire ce qu'il veut et avec beaucoup d'intensité dans certains cas, dans certains milieux. Et puis, je crois que les gens moins dotés de culture scientifique s'expriment plus fort qu'avant et on les entend et on les perçoit plus et ils contaminent.
Vous pensez à qui par exemple et vous pensez à quoi?
Ben je pense à des communautés peut-être. Je vais utiliser le terme complotiste, mais des communautés depuis. On a l'exemple de l'éclipse en ce moment, mais la pandémie d'il y a quelques années, ça a révélé toute une frange de société moins équipée en termes de culture scientifique. Et J'aimerais aussi préciser que quand on parle de culture scientifique, ce n'est pas tant de savoir le nom des éléments du tableau périodique par cas, puis le nom des étoiles, puis tout ça. C'est pas ça la culture scientifique. En tout cas, c'est pas que ça, il faut en savoir un peu, mais c'est surtout de comprendre d'où vient ce savoir-là. Le savoir scientifique, comment est-ce qu'il est généré? Ce n'est pas l'avis puis l'opinion de quelqu'un, puis mon opinion est équivalente. Non, ça repose parfois sur des centaines d'années de travail, puis de validation et surtout d'invalidation. On a démoli les hypothèses qui se pouvaient pas, puis il reste juste celles qui ont du bon sens. Maintenant, avec la science, bon, j'entrerai pas dans un cours de comment la science fonctionne, mais...
De méthodologie, ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce savoir-là, qui ne savent pas ce que vaut la science, c'est quoi sa solidité, c'est quoi ses faiblesses aussi, parce qu'elle a ses faiblesses, et qui considère la vie des le savoir scientifique comme une opinion parmi d'autres. Et puis, c'est dans des moments comme ça que ça se révèle le plus. C'est dans la pandémie, l'éclipse actuellement, les gens qui n'y connaissent rien ont autant voix au chapitre que ceux qui s'y connaissent. Et puis, ça finit par faire une espèce de brouhaha ambiant. C'est avec ça. Peu de...
Où on Mathieu Robert, sur ce brouhaha, oui, puis sur peut-être la prudence excessive aussi.
Moi, j'ai envie de dire, quand j'aimerais ça reculer un petit peu plus profondément dans le problème, parce que moi, je ne crois pas qu'il y ait un effondrement de la culture scientifique. Je pense que dans le milieu scolaire, c'est très important de savoir que, malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui choisissent cette voie-là parce qu'ils étaient pas bons en ceci, parce qu'ils étaient pas bons en cela. Et la science, souvent, est une voie, quand t'es fort en maths, t'es fort en chimie, éventuellement en physique, tu choisis cette voie-là. Et si t'es pas bon dans ces domaines-là, t'es pas bonne là-dedans, t'es pas à l'aise, souvent tu vas choisir donc les sciences humaines et l'enseignement. Et ça, je sais que ça peut choquer quelques oreilles de dire ça, c'est pas méchant.
Ah oui, ben oui, c'est vrai.
Mais sauf que j'ai déjà étudié, fait un reportage sur l'enseignement des sciences, et c'était un problème qui était soulevé par exemple Marcel Thouin, qui enseigne la didactique des sciences.
Ok, pour être clair, là, c'est les cancres en maths et en sciences deviennent nos enseignants en ce domaine.
C'est dit un peu durement, mais ça ressemble un petit peu à ça, le portrait. Et le problème, c'est que quand vient le temps d'enseigner des sciences, ou peut-être de dire le 8 avril, il va y avoir quelque chose à l'extérieur, plutôt que d'y aller franchement et de dire, bon, ben, on va lire là-dessus, on va essayer de voir comment on peut prévenir les problèmes de rétinite, on va dire, ben, on va fermer les écoles, ça va être plus simple. Moi, j'aurais pas à m'occuper de ça parce qu'il y a des dangers aux yeux, il y a des dangers associés à la chose. Et donc, c'est ça le problème, je pense, qui serait fondamental. Il y a un problème sérieux de culture scientifique. Oui, on l'a vu particulièrement durant la pandémie, mais tous les jours, ce problème-là s'exprime. On a des lacunes en science, en culture scientifique, de façon assez générale. Bon, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'en partant, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec la science en général. Ils se disent, ah, c'est trop compliqué pour moi. Je vois pas là. Donc, quand on est devant le plan de classe, c'est un peu ça.
T'as levé le doigt.
Oui, ben, j'aimerais juste nuancer sur ce que Mathieu Robert dit. Je suis d'accord avec lui, mais je resserrerai son analyse aux enseignants du primaire. Parce qu'au secondaire, il y a des profs de sciences spécialisés en sciences qui ont quand même, disons, un peu plus d'aisance avec la physique, la chimie, les maths, la bio, etc. Mais c'est un problème... Mais il y a un autre problème au secondaire, en fait. C'est qu'au primaire, on a des enseignants qui se sentent parfois inconfortables ou mal à l'aise ou qui se sentent eux-mêmes pas compétents d'enseigner la science. Donc, nos enfants passent les 6 premières années de leur scolarité dans un tunnel où on touche pas trop à la science, puis quand on a fait une dictée qui parle du cycle de l'eau, on coche, ouais, ça y est, j'ai parlé du cycle de l'eau en classe, mais non, j'ai fait une dictée. Je caricature un peu. Au secondaire, il y a des profs spécialisés qui sont dédiés aux sciences, mais c'est un autre problème qu'on a là, c'est que on demande à ces enseignants-là de s'assurer que les jeunes passent leurs examens de secondaire 4 en sciences, donc on leur bourre le crâne de données, puis de savoirs essentiels, supposément essentiels, en oubliant le côté humain de la science, puis de la rendre sexy, puis de la rendre... c'est une aventure, la science, c'est une aventure, la plus grande aventure de l'humanité. On la présente pas comme ça, on la présente comme des graphiques, puis des formules.
Ben oui.
Puis,
une trentaine d'années, moi, je critique la décision de faire passer tous les enseignants du primaire et du secondaire par le cours de 4 années de pédagogie, même... Là, on commence à corriger cette erreur-là, mais il me semble qu'on a perdu une génération. Il y avait des diplômés en chimie, en physique, qui auraient voulu devenir professeurs ou enseignants au secondaire, puis qui ne pouvaient même pas. Il fallait qu'ils se tapent quatre autres années de pédagogie ou même une maîtrise qualifiante. Est-ce que ça a pu nuire à la transmission de la culture scientifique et à la passion, Mathieu Robert?
Oh, certainement, certainement. Vous savez, il y a moyen de regarder la science en mouvement, c'est vraiment, quand c'est bien enseigné, la science, c'est extrêmement vivant. On le voit, il y a des animateurs qui sont surdoués là-dedans, toute la gang des débrouillards, ouais. Il y a les neurones atomiques, des animateurs, des gens qui vont dans les écoles, qui font exploser des fioles. Ça peut paraître un peu caricatural, mais voilà, des expériences en chimie qui sont très, très visuelles, et on peut aller faire de l'écologie dehors. Il y a 100 000 façons de bien enseigner la science de façon très vivante et ludique. D'ailleurs, ici, au Québec, on a beaucoup d'expertise là-dedans. Je vais parler du mouvement des débrouillards qui est né ici, mais qui a essaimé partout dans le monde, qui fait école. On a, avec le quartier ici, le jardin botanique, le biodôme, le planétarium, un des quartiers de vulgarisation scientifique les plus extraordinaires au monde. Et il y a des magazines et tout ça. Donc, il y a moyen d'être très, très accessible. La science n'est pas justement un paquet de formules rébarbatives et qui font peur.
J'ai regardé je me suis plongé, j'ai demandé aux archives du Journal de Montréal de m'envoyer les articles des dates du lendemain des dernières éclipses. 72, et je me souviens plus exactement des dates, mais j'en ai fait sortir plusieurs. Puis jamais on parlait de problèmes, de risques. C'était une société comme celle dans laquelle j'ai grandi dans les années 70-80, plutôt fascinée par la science, puis plein d'espoir en la science. On tripait sur cet événement-là. Est-ce qu'on est devenu une société obsédée par le risque? Je pense à l'auteur Ulrich Beck, allemand, qui a fait toute une théorie sur la société du risque. Est-ce que vous avez cette impression-là, Joël?
J'ai l'impression, effectivement, que notre regard sur la science a changé au cours des dernières décennies. Et il y a sûrement plein de facteurs qui expliquent ça, notamment des catastrophes de toutes sortes, des navettes spatiales qui ont explosé, des centrales nucléaires qui ont pété, les armes de destruction massive. C'est un enfant de la science, qu'on le veuille ou non. Donc, je crois que c'est, en plus de l'inculture scientifique dont on parle depuis tout à l'heure, il y a chez certaines personnes une méfiance qui est née par rapport à la science, parce que science égale parfois danger. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aimerais jouer au devin pour les prochains jours. Oui. Je crois que même s'il y avait sûrement très peu de blessures aux yeux autrefois, une des récentes éclipses, en 2017, les États-Unis ont été gratifiés d'une magnifique éclipse qui a traversé le pays d'un bord à l'autre. Ça fait 7 ans à peine. Et c'est un peu un cas intéressant qui nous permet d'étudier ce qui s'est passé à ce moment-là. On estime qu'il y a quelque chose comme 300 millions de personnes qui ont pu assister à l'éclipse. Et sur ces 300 millions, il n'y a moins d'une centaine de personnes qui ont déclaré des problèmes de vision dans les jours qui ont suivi. Ça, c'est ceux qui sont allés chez l'ophtalmologiste. Donc, il y en a peut-être un peu plus, mais dans ceux qui se sont déclarés, on est à moins de 100 sur 300 millions. Donc, c'est une proportion...
Le risque est minime, là. Ouais.
Le risque est minime. Mais moi, ce que j'aimerais... La façon dont ma petite observation va ces derniers temps, moi, je crois que... Je prédis que ça va aller en grandissant dans les prochaines éclipses. Ces blessures aux yeux-là.
Parce que,
tout comme il y avait des gens qui refusaient de porter des masques puis de se faire vacciner durant la pandémie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont refuser de mettre des lunettes dans quelques jours.
Comme Donald Trump qui a regardé la dernière fois.
Oui, mais Donald Trump, si vous regardez la vidéo, je crois qu'il a fait une seconde écart. Okay. C'est pas dangereux. On peut tous regarder le soleil une seconde écart sans se blesser.
Bref. En terminant, vous allez être où lundi, Mathieu, Robert?
Moi, je vais être sur le toit du Mont Mégantic, là où il y a l'Observatoire scientifique. Donc, j'ai la chance d'être admis par un groupe d'astronomes professionnels. Donc, René Doyon, le directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes.
Formidable! Puis on va te lire.
Ouais,
on va te lire dans le journal là-dessus.
on va être assez proche de la Lune parce que je vais être au sommet de la montagne.
Formidable.
Mais Joël, juste un petit mot, si vous permettez, parce que moi j'étais là en 72, j'ai 63 ans, j'avais 11 ans. quand ça a eu lieu. Puis je veux quand même vous dire que dès ce moment-là, on avait fait vraiment une panique autour des rétinites.
Vrai?
Aussi,
ah oui,
Oui, je me souviens très, très bien. Je me souviens aussi d'avoir fait une boîte à chaussures avec un trou. Puis je vous dis tout de suite, si vous essayez ça, c'est assez décevant parce que la lune et le soleil sont minuscules. Là. C'est vraiment, tu te dis, j'ai hâte d'essayer ça, ma boîte à chaussures. Mais je vous avertis, c'est pas si fun que ça.
Joël, mais, vous allez être où, vous, lundi?
Dans mon cas, ça va être un événement familial. J'ai mes deux jeunes enfants de 6 et 9 ans, puis on s'en va dans le coin de Harford, Sherbrooke. Dans ce coin-là, on va y aller selon la météo. Le matin même, on va essayer d'attraper l'éclipse au meilleur.
Formidable. Ben, je vous souhaite tous les deux une bonne éclipse. Je rappelle que vous êtes Mathieu Robert-Sauvé, journaliste au Journal de Montréal, puis Joël Leblanc, journaliste scientifique, fondateur de Zapiens et co-auteur avec Julie Bauduc-Duval de Éclipse quand le soleil fait son cirque. Merci infiniment à vous deux et à bientôt. J'ai hâte de vous en reparler après l'éclipse.
Merci Antoine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.